RMC. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovico Bragnac, de Jonathan Maccardi, Simone Rovera nous a rejoint. Ciao Simone.
Il n'y en a plus.
Il y en a plus.
Non, là, des rumeurs.
Non, on commence pas avec des mauvaises rumeurs. Des
déjà qu'il est raciste, si en plus tu veux qu'il soit homophobe.
Comme un bouc.
Arrête. C'est vrai.
Arrête avec ça. Après, il y a des gens qui croient vraiment.
Croivre, on dit en français. Ouais. In francese, croavere. Quand je déconne, c'est pas vrai.
Ah bon, ok.
Ça va, Simone?
Très bien.
Tu sais qu'il y en a un qui est chez toi en ce moment. Eric Salio. Quart de finale du Masters 1000 de Rome entre Djokovic et Del Potro, et il se régale, Eric Salio.
Bien sûr,
Ah oui, c'est un match assez fantastique. Del Potro, donc, qui mène 5 jeux à 4. Il est au service, c'est-à-dire qu'il sert pour essayer de boucler cette première manche. Mais Novak Djokovic a une balle pour égaliser à 5 partout. On atteint bientôt l'heure de jeu. C'est vous dire l'intensité de cette rencontre. Voilà, elle est sauvée. Donc, 5-4 Del Potro, 40 à l'Argentin qui revient à 2 points de boucler cette première manche, et il est 23h, ça peut nous emmener très très loin dans la nuit romaine.
T'as une adresse pour Eric ou pas à Rome, Simone?
Non.
Bah, je pense qu'Eric a des adresses pour toi.
Il y en a plein, je me demande un seul.
Bon, je vous l'avoue, j'ai une petite cantine via Teatito.
Non, mais voilà. le rooftop du Martini Bar, c'est très bien.
Ah, c'est pas dans les moyens de RMC, ça.
C'est très très bien fréquenté.
Et c'est dit.
Mais t'inquiète pas, madame, écoute pas, tu peux dire que tu vas y aller.
Non, mais c'est pas une question de madame, c'est une question de coût peut-être.
Non, c'est pas. Tu vas boire un petit verre, ça va.
D'accord. Voilà. Bah écoute, on verra. À 3h du mat à la fin de ce match, on verra.
C'est la meilleure horaire.
Merci beaucoup, Eric. Salut. À tout à l'heure. Et puis on y est. Qu'est-ce qu'il y a?
On revient sur Lyon.
Oui, on revient sur Lyon, effectivement. On vous donnait cette information. Alors, la saison prochaine, Juninho sera le directeur sportif de l'OL. Et très probablement, le futur entraîneur de l'OL s'appelle Silvinho, brésilien de 45 ans, qui était jusque-là sélectionneur de l'équipe olympique du Brésil. Alors, depuis avril dernier seulement, lui qui a été l'adjoint de Tite lors des 3 dernières années.
L'adjoint de Mancini aussi.
Il a été l'adjoint de Mancini. Il a été l'adjoint d'un autre Mancini, un homonyme également au Brésil pendant pas mal d'années. On va accueillir Oscar, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32-16. Salut Oscar.
Bonjour.
Salut Oscar.
Salut.
Alors Oscar, comment t'as réagi toi en voyant cette info là?
Je suis content. C'est un
t'as quel âge Paris Oscar?
J'ai 15 ans.
Jeune supporter.
Oui, je disais, c'est un nouveau pour Lyon d'accueillir un entraîneur brésilien qui du coup compléterait Juninho, mais je trouve que Olas a encore fait de grandes annonces avant l'arrivée d'un probable entraîneur en disant qu'il y aurait sûrement un grand nom. L'Olympique Lyonnais, et encore une fois, c'est quelqu'un qu'on connaît pas trop. Enfin, en tout cas, que moi, en tant que supporter, je connais pas du tout.
Non, mais tu peux le dire. Non, personne va te mentir, à part les spécialistes du Brésil. En tant qu'entraîneur, personne ne connaît.
Personne ne peut connaître.
Il a jamais été numéro un.
Il a été quand même au-delà où on a vu ceux.
Ça a été un super joueur.
On a vu ceux qui ont été parachutés directement. Mis à tête des clubs sans lui, il a quand même une formation d'adjoint.
Je vous fais son parcours en tant qu'adjoint. En 2011-2012, il était adjoint à Cruzeiro d'un certain Wagner Mancini d'ailleurs, justement. 2012, pareil au Sport, également au Sport Recife. En 2013, il était à Nautico comme adjoint. Après 2013-2014, c'est au Corinthians. 2014-2016, il est l'adjoint de Roberto Mancini, cette fois-ci, à l'Inter Milan. Et après, il a été l'adjoint de Tite au Brésil. Et depuis avril dernier, il était le sélectionneur olympique. Tu te souviens de lui, toi, en Italie ou pas, Simone?
Je me souviens que quand il était arrivé, j'avais recueilli un peu de voix sur lui, on m'avait parlé très bien.
T'avais fait ton boulot pour une fois.
D'accord. Je fais toujours mon boulot, écoute.
Ah mais les gars,
on disait quoi sur lui alors?
J'avais parlé avec Thiago Motta qu'il avait côtoyé à l'époque et il m'avait dit parler très bien de l'homme à Barcelone, très bien de l'homme, et selon des autres rumeurs, il c'était quelqu'un qui s'appliquait beaucoup dans le travail comme adjoint. Donc, apparemment, c'est quelqu'un qui a des bonnes bases après.
Après, de toute manière, pour moi, le nom de l'entraîneur, c'est quand même un petit peu secondaire ce soir, parce qu'on on verra, on va attendre de voir. Personne n'a jamais vu entraîner, n'a jamais été entraîneur d'une équipe première. C'est vrai, je comprends notre auditeur Oscar que ça peut être un petit peu déceptif avec tous les effets d'annonce de Jean-Michel Aulas. Je vais prendre enfin un grand coach, parce que Lyon, au final, n'a jamais pris de grand coach européen. Et là, c'est ce qu'on attendait. Peut être déceptif, mais juste ce qui est super important, je trouve, c'est que le club va retrouver un fonctionnement que je trouve normal. Un président qui préside. un directeur sportif qui est en charge de la politique sportive avec une vision qui dépasse le court terme, qui va plus dans le moyen terme, qui choisit un entraîneur et un mec qui a la cellule de recrutement, Florian Maurice, qui à mon avis va voir peut-être ses prérogatives un petit peu diminuer, mais qui a quand même un certain talent pour aller chercher des bons joueurs. Et là, on a une organisation qui est claire. Et je trouve que ce club, pendant longtemps, l'Olympique Lyonnais, a souffert d'une organisation où tout le monde pensait pouvoir faire le travail de tout le monde.
C'est intelligent. Là, c'est très bien. C'est intelligent dans le sens aussi où tu rachètes la paix sociale.
Exactement aussi.
La fracture était consommée.
Mais les supporters, même à 15 ans, ils sont pas dupes non plus.
Non, mais bon, le fait déjà de faire revenir Juninho, ça contribue à recoller un peu les morceaux.
C'est sûr.
Après, si Juninho il vient et que tu lui laisses pas les coudées libres, alors je pense que ça a été dans le choix. Il a dit OK, moi je viens, mais je choisis le coach. Et pour une fois, je trouve que c'est bien joué. Après, moi j'y vois pas d'inconvénient. Il faut bien débuter quelque part. Ce garçon a quand même un processus qui l'a amené à être adjoint au Brésil, puis après dans un club international. C'était un joueur qui a une carrière plutôt brillante dans des grands clubs.
Et je pense qu'avec Tite, t'apprends quand même pas mal.
Pourquoi pas, ça me choque pas plus que ça.
Ah, juste pour ajouter un tout petit dernier truc, c'est moi maintenant ce que j'attends, c'est la première conférence de presse, on va dire, qui sera celle du nouvel état-major lyonnais. Conférence de presse que j'attends être une conférence de presse de politique générale, qu'on nous annonce quels sont les objectifs sur le court et sur le moyen terme. Et là, à mon avis, on pourra un peu plus parler pour savoir quelle est la cohérence de ce choix d'entraîneur vis-à-vis des objectifs.
Merci à Oscar, supporter de l'OL, d'avoir été avec nous. Et on accueille Stéphane Rosenbaum, spécialiste du football brésilien, qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Stéphane.
Salut Nicolas, tudo bem, amigos?
Uau, beleza, né? Sim, o vídeo está chegando no UEL, Olympique Lyonnais do Brasil, né?
Impressionnante essa escolha
do Brasil. Bom, alors Stéphane, il faut que tu nous présentes un peu mieux Silvinho. Alors nous, on connaît le joueur, bien sûr, ancien latéral, on l'a dit, passé par Manchester City, par Arsenal, par le Barça. Voilà, il a fait une énorme carrière au Celta Vigo également. Mais alors dis-nous, c'est vrai que quand on regarde son CV en tant qu'entraîneur, il a finalement été qu'entraîneur adjoint, ce Silvinho.
Exactement, c'est presque, j'allais dire, je vous entendais parler, c'est presque, j'allais dire, un pari que fait Lyon à travers, bien sûr, le choix de Juninho. Mais il faut se rappeler que Silvinho, lui, c'est la même chose au Brésil. La plupart des gens se rappellent de Silvinho comme joueur. On pense à lui au Brésil souvent, on se rappelle quand il était au Corinthians. Après, bien sûr, il a fait sa carrière en Europe. Mais c'est vrai que c'est un pari puisque entraîneur principal d'une équipe.
Il a jamais été, ouais.
Il a jamais été. Il a eu cette occasion-là en avril, quand il a pris les rênes de la sélection olympique de sous 23 ans. Mais finalement, voilà, il a pas vraiment travaillé avec la sélection olympique.
Mais quelle image il a au Brésil alors finalement, Silvinho? Est-ce que par exemple cette annonce, parce que j'ai vu que c'était repris au Brésil également, on l'annonce également du côté de l'Olympique Lyonnais. On rappelle, c'est la CBF aujourd'hui, la Confédération Brésilienne de Football, qui a annoncé son départ. Est-ce que c'est surprenant au Brésil aussi? Est-ce que c'est une surprise de le voir à Lyon?
Bien sûr, c'est aussi une surprise parce que je ne vais pas dire que c'était un homme de l'ombre, mais quand on n'est pas dans un poste d'entraîneur principal, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On sait bien sûr qu'il a entraîné et été adjoint de Tite pendant son projet pour la Coupe du Monde depuis 2016. Il a travaillé avec Tite, mais en même temps, on l'attend. Et ça, c'est quelque chose, vous parliez maintenant de ce pari pour Lyon, c'est vrai qu'on va l'attendre au tournant. Alors, s'il a la chance de, on sait qu'il est très sérieux, on parle de lui comme quelqu'un de très sérieux, de quelqu'un qui étudie beaucoup, et les gens lui font confiance. Et notamment, c'est un homme de confiance de Juninho. Mais comme on a quelqu'un qui n'a jamais entraîné, on va l'attendre au tournant.
Surtout que c'est un grand club, Lyon, c'est un grand club.
Il ne le gagne pas, ça va être assez dur pour lui.
Moi, j'ai une question pour tout le monde. Je suis peut-être, je veux pas faire le théoricien du complot, mais est-ce que Silvinho, en quelque sorte, un mec qui a le profil d'adjoint, etc., c'est pas le candidat idéal pour être une espèce de prête-nom à Juninho? Vous voyez ce que je veux dire?
Non.
Qu'en fait, ce soit Juninho qui ait la main sur l'équipe. Il a besoin de quelqu'un qui ait les diplômes, qui soit en règle pour entraîner. On sait que Juninho, lui, il a juste son diplôme UEFA. Est-ce qu'en quelque sorte, c'est pas, je dirais pas un pantin parce que c'est dégradant, mais est-ce que c'est pas non plus, tu vois, juste un lien entre Juninho et l'équipe première?
Bah alors justement, Stéphane, est-ce que l'annonce de Juninho en tant que directeur sportif de Lyon, là aussi, ça surprend au Brésil ou pas?
Écoute, ça surprend parce que les dernières informations qu'on avait de
c'était
Juninho...
Non, ouais.
Il était aussi fâché avec une partie de la presse au Brésil parce qu'il a travaillé pour la télé Globo et il est sorti fâché de la télé Globo. Il est parti aux États-Unis vivre et être plus proche de sa fille qui avait eu un bébé et voulait passer un moment, un temps avec avec sa famille aux États-Unis. Et c'est vrai que ça surprend que maintenant il ait décidé de revenir. Mais il faut se rappeler que Juninho et Lyon, c'est une ville qu'il a toujours aimée, qu'il a un souvenir immense, et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, il s'est dit voilà, il faut que je suis resté avec ma famille, j'ai pris du temps avec mes proches, mais maintenant il faut que je revienne.
Stéphane, c'est un peu surprenant dans la mesure où il y a encore trois mois, on nous disait que c'était impossible, que Juninho ne considérait pas du tout de revenir à l'Olympique.
Bah pour les raisons que vient d'évoquer Stéphane d'ailleurs.
Et il y avait pas que ça, mais après je sais pas si on peut vraiment, parce que c'est des rumeurs, mais il y a des petits problèmes, on va dire, d'ordre réglementaire.
Il a brouillé les pistes aussi, Jean-Michel.
Peut-être
Rost.
Aussi.
Mais
peut-être aussi.
Toi, tu parlais tout à l'heure de savoir qui va être vraiment le taulier. Je crois qu'on nous vend une paire. Alors je sais pas si c'est la paire d'as, si c'est la paire.
Je pense que c'est une paire.
Mais t'as au moins une paire.
Ça, Ludo.
T'as une paire de rois, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi je préfère. C'est son pote. À Juninho, je préfère qu'entre le directeur sportif et l'entraîneur, il y ait une relation de confiance, d'amitié peut-être. Juninho, tu connais son caractère, quand il faudra trancher, il tranchera. Mais si tu veux, je préfère ça que ce que tu as au Paris Saint-Germain en ce moment, où bien le directeur
mais
sportif s'entend pas vraiment avec l'entraîneur.
Non, ça, c'est clair. Stéphane, c'est clair. On sait s'il y a une connexion particulière d'ailleurs entre Juninho et Silvinho.
On sait qu'ils ont joué à la même époque, ils ont joué en Europe aussi à la même période, on va dire. Ils se sont connus aussi et ils ont joué en sélection. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a une confiance pleine, Juninho. Maintenant, c'est ça. Si jamais ce lien entre eux, ça marche et que ça fonctionne, déjà ça montre, comme vous avez dit, que Juninho, il a la liberté de choisir son coach.
C'est déjà beaucoup.
Et deuxièmement, si ça marche, c'est 100% gagnant pour Lyon et pour le début de la carrière de Silvinho. Je pense que il joue gros, bien sûr. Silvinho aussi, c'est une pression. Il joue gros au Brésil, bien sûr. On parle d'un grand club européen. Lyon est un grand club européen, oui. Et il est vu comme tel au Brésil. Et donc pour lui, c'est une énorme chance. Bien sûr qu'ici on a un peu peur. Il a pas vraiment fait une carrière comme coach principal, mais je pense qu'il y a un début à tout. Et si la façon comme on le décrit, ses proches le décrivent comme quelqu'un de sérieux, qui étudie beaucoup et qui a la confiance des plus grands cracks du Brésil, je pense que ça peut avoir un effet positif pour l'équipe lyonnaise.
Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ces informations sur Silvinho, Stéphane Rosenbaum.
Un plaisir, merci Nicolas.
Bonne nuit, amigo.
Et sur la
abraçant.
Regarde pas pour la liste.
Non, c'est bien plus tard.
OK.
D'accord. Si tu veux faire le programme, tu reviens avec nous un peu plus souvent. Eric Salio, quart de finale du Masters 1000 de Rome entre Djokovic et Del Potro. On en est où, Eric? Ah, Eric? Ah il est pas là.
Non, mais Eric, on l'avait déjà perdu tout à l'heure.
Finalement, il a vraiment pris l'adresse que tu lui as filée tout à l'heure.
Je pense, ouais.
Et il y a les du coup. Et on va accueillir Jean-Claude, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32-16. Tiens, petite info également. Vous savez que l'arrivée de Silvinho, alors c'est imminent du côté de l'OL comme entraîneur, ce sera seulement le deuxième entraîneur étranger de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Alors le premier, mon pote, faut le connaître. Peut-être que Jean-Claude le sait d'ailleurs. Salut JC.
Oula, non.
Mon gars, alors je vais dire.
C'était avant moi.
Oui. Non, t'es né en quelle année?
67.
Ah si, t'as connu. Entraîneur en 81-82. Il a fait quelques mois, pas 3-4 mois, un truc comme ça. Yougoslave. Un certain Kovacevic. Voilà.
Oui. Maintenant que tu me le dis. Oui.
Voilà, seul entraîneur, c'est le seul entraîneur étranger de l'histoire de l'OL jusqu'ici, jusqu'à Silvinho. Donc.
C'est déjà une petite révolution.
Alors Jean-Claude, comment t'as réagi toi en apprenant le retour de Juninho et l'arrivée probable là à venir également de Silvinho comme entraîneur?
Eh ben écoute, alors quitte à ce que ça en fasse marrer certains, je me suis refait les buts de Juninho sur internet quand j'ai su ça, et j'ai, franchement j'avais la larme à l'œil.
Eh ben c'est normal, mais tu sais qu'il va pas jouer, hein, mais j'y sais pourquoi ça serait drôle, c'est tout à fait normal.
C'est tout à fait normal.
Il y a un drôle.
Oui, c'est vrai.
Excuse-nous de nous marrer, pardon.
Mais non, mais les supporters.
Il n'y a rien de grave non plus, on a le droit de se marrer, il est bon.
Non, mais parce que.
Rien de drôle, ça y est, on n'a pas insulté, Juninho.
Non, mais arrête de t'énerver, on a des auditeurs.
Mais c'est scandaleux ce que tu fais là.
On a des auditeurs qui sont peut-être un petit peu plus jeunes, comme Oscar qui avait 15 ans.
Qui avait 15 ans, mais tu dois connaître Juninho.
Oui, mais faut quand même dire que Juninho, c'était, je veux pas être vulgaire, mais c'était un putain de joueur.
Ah non.
Il était, mais extraordinaire.
C'était un bonhomme. Moi, j'allais aux entraînements à l'époque, c'était au Lavologe, c'était à Gerland. Quand il ratait un ballon ou alors que quelqu'un lui faisait une mauvaise passe, mais enfin, tu sens que ce mec, il a la gagne en lui. C'était un truc de fou, et c'est ça que les jeunes comprennent pas. C'est qu'aujourd'hui, l'état d'esprit de Lyon, des fois, tu les vois tirer des corners, tu te dis, mais attendez, il est travaillé à entraînement, les corners.
Jean-Claude, tu sais ce qui était le plus marquant chez Juninho, c'était que c'était un joueur qui était quand même très élégant, avec une très belle technique, mais à la fois, c'était un vrai chien de la casse sur le terrain. Le mec, voilà, sur chaque ballon, il allait, ouais, non, mais il avait vraiment cet esprit, cette rage, que, tu vois, maintenant, quand on regarde des joueurs, on dit, ah, il est élégant, il est un petit peu à la Pastore, mais il manque de caractère. Que lui, il avait tout. Il avait la classe et la rage.
On aime ce type de joueurs qui sont justement à la frontière entre le côté caractère et caractériel, tu sais, parfois,
un petit peu garce.
Il incarne aujourd'hui parfaitement les valeurs sur lesquelles l'OL doit reposer, c'est-à-dire cette OL des années 2000, fort, sûr de sa force, l'élégance et en même temps le caractère.
Moi, je suis d'accord avec vous sur tout ce qui dégage, mais Jean-Claude, et je me tourne notamment vers toi. Alors, je comprends, il y a ce côté nostalgique, c'est une légende de l'OL aussi. Là, il vient quand même à un poste qui est différent, Jean-Claude, on est d'accord?
Oui, mais moi, je me fais pas trop de soucis. Alors, encore moins depuis que je vous ai entendu faire la description de Sylvino, que je connaissais pas vraiment. Je trouve que, enfin, d'après ce que vous en avez dit, il a un profil qui ressemble à un peu à la personnalité de Juninho. Le mec, il est travailleur, il est sérieux. Donc en fait, il a choisi quelqu'un qui lui ressemble. Et moi, je dis que ça sent bon. Donc
Après, franchement, on va pas s'avancer parce qu'on sait pas. Mais il y a autre chose à rajouter sur Juninho, c'est que on l'a côtoyé longtemps dans le championnat de France. C'est qu'en plus, c'est un mec qui a l'air d'être extrêmement intelligent, et quand t'es directeur sportif, je pense que c'est important d'être intelligent et d'être capable d'avoir une vision sur le moyen terme, de construire des choses avec logique et cohérence. Et voilà, le mec, enfin, tu l'entends parler de foot, il connaît quand même beaucoup, quoi. Donc c'est quand même c'est le bon côté.
C'est vrai. Et puis en plus, avec Olas, je pense qu'Olas va pas lui la faire à l'envers. Je pense qu'il y a du respect mutuel. Et je pense que ça aussi, c'est de bonne.
Il aura plus de mal à écraser Juninho qu'à écraser d'autres entraîneurs avec la pression populaire, avec le soutien populaire, avec l'histoire de Juninho à Lyon. Donc ça peut être très bien aussi.
Jean-Claude, au-delà des vidéos de Juninho, on va te faire un cadeau, le DVD de Creed 2 également, Drago contre Creed. Tu l'as vu ou pas?
Ah bah non, avec plaisir.
T'as vu les Rocky et tout ça, non?
Ouais.
Bah tu vas kiffer, c'est sûr. Moi je kiffe Rocky, j'ai kiffé le Creed 1 et le 2. Ouais, non, franchement. Okay. Puis alors, le Creed 2, c'est avec Drago, le père il revient, enfin c'est top quoi. Donc ne raccroche pas, on va t'offrir ça. Et ça dit le brassard là de la lutte contre l'homophobie?
Allez,
on va t'envoyer ça également avec le DVD. Voilà, nous on les porte.
Et puis bravo pour la petite conversation en portugais. Bon, je sais que pour toi c'est facile, c'était quelque chose.
Après le talent, tu sais, moi je suis polyglotte, hein. Tu peux demander à Simon, je parle l'italien, j'appelle l'italien en 5 minutes. Hein. Ouais. Je parle mieux italien que lui d'ailleurs, mais il le sait pas encore. Mais
ouais, la machine à café, tu l'as pris avant.
Oui, mais on la bat, ça. Ouais. On la bat, la macchina del café. Ciao, buonasera, Gian Claudio.
Horrible.
Buonasera a tutti.
Ciao, come va? Vamo a ritrovare Rick Zaliotto nel Masters 2000 del tennis. Come tu dici tennis?
Tennis. Come vuoi dirlo?
Ora parlo italiano. Enrique.
È incredibile. 6-4 per il Djokovic. No, per il Del Potro. Mi dispiace. 6-4 è la grande sorpresa qui a Roma, al Foro Italico.
Tu sais pas rouler les airs non plus, toi.
Non, c'est une énorme surprise. La 6-4 Del Potro et Djokovic, on attend sa réaction, mais il est embêté parce que l'autre il envoie des mitas extraordinaires. Est-ce qu'il va pouvoir tenir, hein? Je vous l'ai dit, c'est seulement son 7e match de l'année. En tout cas, il y a une balle de break à venir pour Novak Djokovic d'entrée de deuxième manche. Et qu'est-ce qu'il fait, Del Potro? Un ace sur la ligne. Le mec est en chaleur. Attention, on peut avoir une énorme surprise.
Grazie mille, Eric.
A tutti.
Si, a tutti. Cavaltamo da qui un instante. Dans quelques instants, Allegri s'en va de la Juve. C'est officiel, ça a été annoncé par la Juve. Hein?
C'est incroyable.
Incroyable.
Et on n'a pas eu l'info par Simonet. Hein.
On n'a pas une info par Simonet?
Ah, non. Si vous êtes vache.
Il a quand même dit ces dernières semaines que c'était chaud pour lui.
Rigole. Vous savez quoi, vous êtes vache parce que c'était lundi dernier dont il en a parlé déjà.
Bah, tu sais quoi, on va même le faire tout de suite, tiens. Voilà, Jérôme Thomas me dit non, tu sais quoi, on décale la pub parce que Simonet est là, priorité à Simonet Rovera.
Ah, c'est bien.
Ah oui, c'est important. La Juve donc qui a annoncé aujourd'hui le départ de Massimiliano Allegri. Alors, conférence de presse prévue demain à 14h. Oui. Alors, pour qu'il puisse répondre à la presse, tout ça.
À côté de André Agnelli, il y aura le président à côté de...
C'était attendu, non?
Oui et non, c'est-à-dire c'est attendu ici parce que
comme on sait tout.
Comme Jonathan disait, il y a deux semaines, j'avais annoncé cette information.
Il a dit qu'il irait à Paris.
J'ai dit qu'il avait une offre et je peux te confirmer parce qu'aujourd'hui j'ai encore parlé avec quelqu'un qui travaille sur les dossiers. Allegri a bien été proposé à Paris. Après que l'offre,
il a une offre du PSG arrive, ou c'est...
Je sais qu'il a été proposé, je sais qu'il parle après Paris à un entraîneur aujourd'hui, donc
Simonet, c'est important ce que tu dis. Il a été proposé ou Paris a fait une offre? C'est pas pareil là.
Il a été proposé, ils ont entamé quelqu'un au PSG, a fait des discours sur qu'est-ce que ça peut être, un contrat ou pas, ouais, un contrat.
C'est Antero, c'est le mec de la machine à café qui, parce qu'on sait plus, trop qui.
C'est peut-être Antero.
À la machine à café, tu trouves des Portugais quand même. On l'a su.
Il y a les Portugais. C'est possible. Donc, on peut faire le café aussi.
On sait jamais. Il
y a des gros problèmes.
Non, c'est pas ça les dossiers. Non, mais ça serait une vraie info de dire que le Paris Saint-Germain s'est positionné sur.
C'est pas les discours qu'on fait, mais j'ai c'est ça sur l'avenir des Allegri. Il y a des pistes qui l'amènent en Bundesliga, au Bayern. Il y a même il y a une possibilité. Il y a d'autres. Il est en train de se positionner un peu sur le mercato. Ça fait des semaines ou des mois qu'il a compris qu'Hiller n'allait pas bien tourner à la Juve. Donc il y a d'autres personnes qui sont en train de suivre son avenir sur une piste parisienne. Pour ce qui concerne le PSG, pour ce qui sont mes infos, Antonelli fait son travail, donc rencontre plein de personnes, et quand il fait son travail, il parle d'éventualités d'avenir. Donc,
Ok.
L'hypothèse prospect, c'est tout. Conte, l'hypothèse Allegri, il y a eu, donc où il va arriver, cette hypothèse, on verra dans l'avenir, sûrement en tout cas, il est fort à Paris et il devrait rester. Mais Allegri, aujourd'hui, se trouve sans une place, sans une banque de touche, parce que André Agnelli a tranché. André Agnelli a décidé d'échanger et d'écouter cette partie de la Juve, c'est-à-dire Pavel Nedved et Fabio Paratici, directeur sportif, qui voulait un changement net concernant l'avenir de l'entraîneur.
Un changement de style.
Alors, l'avenir, les changements de style, c'est plus Agnelli qui le voulait.
D'accord.
Le changement de style, c'est plus Agnelli.
Et Conte, c'est pas le même style qu'Agnelli. Que Allegri.
C'est pour ça qu'il y a un vrai cassure aujourd'hui entre ce que veut imposer certaines à la Juve, qui sont vraiment Nedved et Paratici, qui voudraient un retour de Antonio Conte, et l'idée d'Agnelli de chercher quelqu'un de différent. Le rêve d'André Agnelli est Pep Guardiola. Ça fait des mois qu'il cherche.
Alors qu'il a démenti aujourd'hui, hein, qui a dit vous arrêtez pas de me poser la question. Sûr. Moi, je vous ai dit que je resterais.
Etc. Parce que les rumeurs tournent depuis longtemps. Ouais. Après, ça rien n'empêche que aujourd'hui, s'il y a un rêve pour André Agnelli, c'est Pep Guardiola. L'autre possibilité sur ce style, c'est Pochettino. Je veux dire, c'est un peu différent,
c'est
mais
plus facile Pochettino.
C'est plus facile.
Il a annoncé qu'il voulait se barrer. Lui.
Voilà. Mais ça reste quand même plutôt cher parce qu'apparemment, il a une clause des sorties de Tottenham qui est élevée.
Ils ont des.
Il a des demandes. Important à faire, ils ont des sous. La Juve,
ils ont des sous.
La Juve, avec l'opération Ronaldo, a misé beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est la.
Non,
c'est les non, cette année, ça va être les premières depuis, je pense, 4 ans où les bilans vont terminer en négatif pour la Juve. Donc ça va être cher aller chercher un entraîneur qui demande beaucoup d'argent. Il faut payer en clause. Surtout que sur le mercato, quelque chose devrait se passer, mais on ne sait pas encore qui va partir, qui va rester. On parle de Dybala. Mais pour arriver à Allegri, qu'est-ce qui s'est passé? Allegri a mis, on peut dire, les points sur la table. Il demandait énormément des changements dans l'effectif. Ouais. Il demandait une prolongation des contrats. Aujourd'hui, son contrat est déjà 7 millions et demi net par an. Il demandait de dépasser les 10 millions et avoir 3 ans en plus de contrat. À un certain moment, entre ce que demandait Allegri et ce qui était la vision de la Juve avec Paratici et Nedved d'un côté et Agnelli de l'autre, on a vu qu'il y avait des différences. Et donc, on s'est dit au revoir. Mais je sais, depuis plusieurs semaines, on avait parlé même à l'after, qu'Agnelli quand même voulait changer plusieurs choses dans la gestion de la Juve quotidienne.
Alors, juste une chose, parce que tu as évoqué certains noms également dans la succession à Allegri du côté de la Juve. Alors, tu l'as dit, on parle de Conte, alors qui est le favori des bookmakers hein, d'ailleurs à un Conte. On parle de Simone Inzaghi. Alors, il y a le nom de Mourinho. Ça paraît quand même improbable qu'il puisse rebosser avec Cristiano Ronaldo. Non, mais même, il y a Ronaldo dans l'histoire. Ronaldo,
bien sûr.
Voilà, il y a Didier Deschamps également, qui fait partie des favoris.
En Italie, c'est un nom qui revient énormément.
On rappelle qu'il est à la Juve.
Il a entraîné, les a fait remonter, c'est un joueur emblématique de la Juve. Mais bon, il y a l'Euro.
Mais c'est semble impossible. Mais si tu regardes avec la logique, entre tous les noms qui sont sortis, il y en a deux ou trois qui sont possibles. Pochettino, Sarri, c'est un nom aussi qui revient beaucoup dans l'avenir de la Juve. Ou Simone Inzaghi, mais... Attention, c'est la Juve peut pas, pour moi, avec tout le respect que pour Simone Inzaghi, peut pas perdre Allegri et prendre son plan B, sa copie à l'étage inférieur qu'est Simone Inzaghi.
C'est clair. Parce que le changement de style, il est pas évident entre les deux. Hein.
Il n'y a aucun changement.
Si tu veux, Allegri qui part, le choix est surprenant parce que les candidats à sa succession sont pas hyper séduisants. C'est peut-être pas le bon. Tu vois, il aurait peut-être fallu attendre un an. Les candidats là que.
Plutôt Pochettino.
Non, le seul, c'est le seul. Mais je suis pas sûr que.
Sarri. C'est pas mal aussi. Ça, Sarri, à mon avis, correspond un petit peu à tout parce qu'il incarne la rigueur.
Non, mais si tu veux, ils ont tous un peu le même profil. Mais après, t'as vu jouer Chelsea cette année, mais Ludo,
c'est pas la même philosophie, les gars.
C'est pas la même philosophie de Napoli, c'était une des équipes qui a connu le beau football des 5 dernières années.
Pas le Chelsea de Sarri n'a pas pris à Chelsea, même s'il a essayé
pour plein de raisons.
Il a cru qu'il pouvait transposer ce qu'il faisait en Italie avec Jorginho devant la défense, alors que là on voit que ça manque de physique. Mais en Italie, ce qu'il faisait avec Naples, c'était quand même
je pense que c'est plus simple de répéter avec Naples. Je pense que c'est plus simple de répéter ça à la Juve que à Chelsea. Pour finir,
même contexte.
Demain, conférence de presse, on va voir s'ils vont annoncer quelque chose en plus sur les raisons. Info qui est sortie ce soir, qui raconte un peu l'anecdote sur les départs d'Allegri, comment il a communiqué ça à ses joueurs. Entraînement d'hier, c'est un collègue de la Stampa qui a raconté ça, entraînement d'hier, il pleuvait, donc ils sont allés dans la salle des sports. Et Allegri a dit à ses joueurs, il faut faire un beau match dimanche parce que c'est la dernière des Barzagli au Juventus Stadium et sera aussi ma dernière. Et donc il a dit comme ça, surprise, au début de l'entraînement, surprise. Pour moi, la surprise, c'est que ça, s'il a dit ça hier, que jusqu'à aujourd'hui à midi, ils sont réussis à garder les secrets. Mais bon, c'est une belle histoire quand même. Je pense, et je vais vous dire seulement, qu'Allegri peut avoir raté cette saison en Europe avec l'élimination à l'Ajax. Ce qu'il a fait sur ses 5 saisons, 5 titres, 4 Coupes d'Italie et 2 fois la Juve en finale Ligue des Champions,
oui, les arros,
c'est pas rien. Oui, et il faut dire
sur la continuité.
On va arrêter là, parce que c'est une très belle histoire également pour toi, Simonet. On va terminer là-dessus. On te retrouve très vite. Hein. C'est pas,
l'année prochaine.
C'est pas la gueule.
Là, il a plus rien à jouer, Simonet.
Ben non. Tiens, non, les prochains entraîneurs de la Juve, je te dirais, ça va être
c'est un choc. Vas-y, tu mets une pièce là, tu mets sur qui?
Pochettino.
Si j'ai une pièce, je mets sur Pochettino.
Ah ouais, Pochettino quand même. Moi, je suis comme toi. Moi.
Ça me semble être le
Merci problème. Simonet. Ciao. Dans quelques instants, avis tranché de notre Ludo Bragnac qui va lancer un appel au président de Ligue 1. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Jonathan Macardy, de Ludovico Bragnac, avec vous également sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio 32-7. Vous êtes pas mal à lâcher des messages concernant notamment le retour de Juninho du côté de l'Olympique Lyonnais. Tiens, il y a Bigolet qui nous dit sur l'application Direct Studio, Ludo est pas très drôle, mais il dit des trucs très intelligents.
Je suis pas très drôle, moi?
Bah ouais. Si, il est marrant, arrêtez. Hein.
Moi, d'ailleurs, je dirais qu'il est plus drôle qu'intelligent, voilà, même, d'ailleurs.
Mais nous, on le connaît plus,
salopard.
Et si, c'est un bout en train, arrêtez. Et faut écouter quand il fait les multiplex, là, qui balance des petites blagues, là.
Non, il est très, bah si, t'es drôle, en plus, non?
Bah ouais,
le roi de la blague.
Plutôt rigolo.
Arrêtez.
On reviendra, bien entendu, sur la Ligue 2 dans quelques instants également, on vous le rappelle, enseignement de la soirée. Bon, vous le saviez, Metz et Brest sont premiers en Ligue 1. Vous le saviez, 3 étaient assurés de terminer 3e. Barragiste, le PFC jouera face au Racing Club de Lens. Lorient n'est donc pas barragiste et puis sont relégués alors en compagnie du Red Star et Béziers. Et puis le Gazélec jouera son barrage face au Mans.
Un petit mot là-dessus quand même, parce que
ça sent pas bon
entre Lens quand même. Et Lorient, ça a été quand même un petit peu la course à la médiocrité. Et je pense que et Montagnier et Landreau ont un petit peu chié leur saison.
Mais attends, c'est pas fini
Lens,
pour Lens.
C'est pas fini.
Non, mais c'est ce que je t'ai dit, ça s'est joué entre Lens et Lorient. Ouais. Mais les deux, franchement, parlons. Je sais que quand ils vont faire les barrages, ça sera sûrement l'occasion d'avoir des supporters lensois qui diront tout le bien qu'ils pensent de Philippe Montagnier et de sa saison à Lens. Tu verras, c'est assez surprenant.
Tiens, je vous donne les dates exactes. Le 21 mai prochain, le PFC jouera face à Lens en barrage. Le 24 mai, 3 affrontera le vainqueur de ce match-là. Le 30 mai, retour le 2 juin, parce que là, ce sera en match aller-retour. Ouais. Le vainqueur du match entre 3 et vainqueur du match entre le PFC et Lens jouera face au 18e de Ligue 1. Donc on aura la réponse également très bientôt. Et en barrage pour le maintien, c'est en match aller-retour. 28 mai, le match aller-retour le 2 juin. Le Mans jouera donc face au Gazélec. Sachez également, ça aussi c'est une information qui est importante, Laval qui termine à la place du coin national perd son statut professionnel également de club.
Ça c'est dur.
Ouais, ça c'est très dur. Surtout que c'est un excellent club formateur.
Oui,
c'est Laval. Donc voilà, on prend une pensée également pour Laval qui perd donc son statut pro. Demain il y aura l'avant-dernière journée de Ligue 1. Tiens, avant de passer à ton avis tranché, on va aller retrouver Eric Salio à Rome, quart de finale du Masters 1000 de Rome entre Djokovic et Del Potro, Eric.
Oui, un 7-0 pour Juan Martín Del Potro, un 6 jeux à 4 face au numéro mondial. C'est une petite surprise parce que vous le savez, Djokovic a remporté le Tour de Madrid la semaine dernière et Del Potro, on sait pas trop où l'on était. Bah là, on est fixé, hein, il est vraiment au top. Va-t-il tenir? C'est la grande question. Il est mené 3 jeux à 2 dans cette deuxième manche et pour l'instant, le niveau de jeu est époustouflant et on va voir si l'Argentin a encore un peu d'énergie pour essayer de tordre entre guillemets le numéro mondial en deux manches.
Demain donc, avant-dernière journée de Ligue 1, et Ludovic Obraniak a un appel à lancer. Avis tranché de Ludo, jingle.
J'avais adoré ce but, mon Ludo.
C'est gentil, mon poulet.
Je ne connaissais pas encore, mais je t'aimais déjà.
C'est sympa parce que c'était l'anniversaire il y a très peu de temps.
C'était quoi, finale?
Finale de la Coupe de France, ouais.
Bah, ouais, je vous ai retrouvé en boîte.
Au VIP?
Avec Nabil Djellit, c'est Toulio qui nous avait fait rentrer. Je te jure que c'est vrai, j'ai des photos et tout.
Ça m'étonne pas que ce soit Toulio.
J'avais une chemise rose avec un gilet, tu sais, sans manche, la grille, là.
D'ailleurs,
super mec Toulio qui vient d'arrêter
Toulio à sa carrière et on lui fait une bise.
Exactement. Voilà, Toulio de Mello. Super mec, hein. Et d'ailleurs, excellent joueur également, hein, Toulio de Mello.
Hein. Bah oui.
Ouais, très bon joueur. Alors, mon Ludo, ton avis tranché, c'est que t'as un appel à lancer au président de Ligue 1.
J'ai peur qu'on tombe sur le répondeur, si j'appelle. Tu vois que je suis drôle.
C'est pas une de tes meilleures. T'en fais des mieux le samedi quand t'es avec.
Je vous ai compris. Vas-y.
Ouais.
Non, écoute, j'avais envie de revenir. Je regardais un peu l'actualité ces derniers jours et je suis tombé sur l'interview forcément de Christophe Galtier à la veille de cette fin de championnat, qui disait justement, on est en plein dedans là justement avec l'Olympique Lyonnais sur l'organigramme d'un club, comment ça fonctionne, et que lui avait pris énormément de plaisir à se retrouver là, à travailler où il y a des postes très bien définis au LOSC, et il laisse paraître que justement cet organigramme a fait beaucoup dans la réussite du LOSC de cette année, avec une remise en cause et tout ce qui va avec. Tout ça pour vous dire que je suis revenu également. Tu peux couper ton portable.
Ouais, c'est très très impoli. Bon. Depuis tout à l'heure, elle arrête pas de vibrer.
C'est que tu sors de Vivatech et que t'as pris les numéros, mais s'il te plaît, quand
c'est
même.
C'est qu'il est vraiment
un
drôle.
Un peu de respect.
Ah, tu t'es perdu tout seul.
Mais voilà, mais voilà. Tu vois, il est tout le temps en train. Tu vois, à chaque fois que je veux faire un truc, ouais, il essaye de me faire.
Il faut qu'il s'abonne. Mais tu sais quoi, on dérange.
Mais je sais.
Qui suis bienveillant avec vous.
Bah, tu sais quoi, mais
bienveillant de la match avec vous, arrêtez.
Et donc non, et que si on analyse un peu la situation des deux Olympiques, du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, il y a quelque chose d'assez flagrant qui saute aux yeux. C'est où sont les dirigeants? Quel est leur rôle? Moi, je suis en train de, tu le sais, de m'organiser par rapport à mon avenir pour devenir justement dirigeant, et j'ai une vision qui est complètement perturbée par rapport à ce que je vois, ce que j'entends. Je me dis, mais finalement, quel est le rôle du dirigeant? C'est quoi? C'est de se pavaner dans les loges? C'est de faire que des RP? C'est de faire le chouette truc du recrutement, et puis jamais mettre le tablier ou mettre les mains dans le cambouis quand ça chauffe un peu? Tu vois, je suis un peu perturbé par rapport à ça. Et puis surtout, le mot est peut-être fort, mais il y a une certaine lâcheté de tout mettre, d'envoyer à chaque fois l'entraîneur au front, l'entraîneur qui a déjà un boulot colossal à gérer 25 mecs, les égos, la tactique, ces mecs qui passent leur journée, leur nuit à essayer de trouver des solutions pour améliorer l'équipe, et ils ont en plus à gérer les problèmes extra-sportifs des clubs. Je pense notamment à Thomas Tuchel qui est obligé de régler le problème Noël Le Graët, qui est obligé de régler le problème Neymar. On l'envoie tout le temps.
Je veux dire que c'est pas lui de parler de ça, normalement.
Mais non, mais c'est de la chair à canon, quoi, tu vois, on les envoie au front. Mais je pense.
T'as totalement raison.
Et je pense aussi au pauvre Julien Stéphan.
Alors, tiens, sachez, puisque ça vient de tomber, petite parenthèse, puisque Olivier Létang s'est exprimé également au sujet de Julien Stéphan. Mmh. Vous savez qu'il avait eu cette déclaration. Ça m'interpelle et je m'interroge, avait-il déclaré lorsqu'il avait vu que les dirigeants s'étaient pas manifestés après la sortie d'Atem Ben Arfa. Olivier Létang a déclaré, je n'envisage pas un autre entraîneur que Julien au Stade Rennais la saison prochaine, et il poursuit, j'ai sans doute commis une erreur en ne prenant pas la parole plus rapidement.
Ah bah voilà, faut avouer, à moitié pardonner. J'allais revenir sur ce cas-là.
Il n'y a pas le feu à Létang, quoi.
Ben oui, on peut dire ça comme
mais
ça.
Mais il y a quelque chose qui confirme en fait ce que tu dis, Ludo.
Très bon.
C'est que tu regardes cette saison. Ouais. OK, on va regarder les clubs qui ont été, on va dire, en échec. Le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille. On peut mettre aussi des clubs qui ont où ça a été la foire, comme Caen, comme Guingamp,
bah comme Monaco,
dans l'intersaison, comme l'AS Monaco. Et à chaque fois, ça correspond exactement à ce que tu dis. C'est des clubs où l'organisation n'a jamais été très fluide, où le directeur sportif et l'entraîneur n'étaient pas en harmonie, où chacun voulait faire, comme je le disais tout à l'heure, chacun voulait faire le travail de l'autre. Et au final, c'est là où je te rejoins à 10 000%. C'est que dans un club de foot, faut que les rôles soient répartis d'une manière adéquate, que chacun puisse s'en tienne à son propre champ d'action. Et là, quand tu regardes en Ligue 1 cette saison, t'as l'impression qu'il y a beaucoup trop de clubs qui ont été désorganisés. disais. Et ça donne quoi? Ça donne le Paris Saint-Germain avec une saison qui est catastrophique malgré le titre de champion. Ça donne l'Olympique Lyonnais avec la gestion calamiteuse, même si là il y a Silvinho, Juninho, ça rattrape un petit peu tout, mais faut pas oublier ce qui s'est passé. Ça donne l'Olympique de Marseille qui s'apprête à vivre des moments très compliqués à l'intersaison. Et moi je suis d'accord avec toi, hein, ce qui peut résoudre, ce qui, enfin, la condition sine qua non pour qu'un club fonctionne, et je dis pas que c'est la condition suffisante, mais elle est obligatoire, essentielle, mais c'est d'avoir une organisation qui est claire.
Mais intervenez, parce que ça laisse trop d'espace, notamment aux joueurs, de s'exprimer de manière assez volatile, comme ça, on leur tend un micro, ils disent ce qu'ils pensent. Bon, alors des fois ça a du bon, hein. Moi je reprends l'interview de Thauvin, que j'ai trouvé un exemple de lucidité. Mais sur moi je connais un peu comme ça Atem, qui est un gentil garçon, mais quand les fils ils se touchent là-haut, voilà, pour ceux qui sont des suiveurs de Game of Thrones, je veux pas spoiler l'épisode 5, mais c'est le frère jumeau de Daenerys, quoi, tu vois, le mec il est là et il envoie 2 tonnes de napalm sur Rennes qui réussit une saison qui est plutôt allez, même si en championnat c'est pas la panacée, mais si tu veux trophée, c'est jamais arrivé, t'as un trophée et puis t'as fait une petite t'as donné du bonheur, du plaisir aux gens, les gens se sont déplacés, il y a quelque chose qui s'est créé, et là toi t'arrives et d'un revers de la main tu détruis tout. Tu peux pas faire ça, t'as pas le droit de faire ça, et là c'est le rôle de ces dirigeants là à un moment donné de fixer les barrières. Mais même pour nous les journalistes, mais même pour nous consultants journalistes, ça laisse la place aux fantasmes les plus saugrenus.
Après, parce que juste, il y a quelque chose qui, je pense, on peut souligner, qui est un petit peu le fil conducteur de tous ces présidents, de toutes ces directions en échec. À chaque fois, c'est quand des présidents qui sont à la base des personnes, je pense, compétentes, qui ont fait leur preuve dans d'autres domaines professionnels, et ben on dit que le foot ça rend fou. Et ben je pense que ces présidents là ça rend fou, parce que ils sont à la tête d'un club de foot, quelque chose qui est un petit peu différent qu'une entreprise dans le secteur privé normal, standard, et je pense qu'ils se laissent griser, et ça donne Nasser qui va dîner avec ses joueurs, ça donne Jacques-Henri Hérault qui fait tout pour recruter Mario Balotelli contre le bon sens. Mais ça donne des présidents qui se mêlent trop du sportif après, alors qu'ils ne devraient pas s'en mêler. Après, si c'était la nomination du
après moi Joe, je leur jette pas la pierre, parce que je sais quand t'es de l'autre côté, t'as franchi les piquets et que t'es de l'autre côté de la barrière, je peux te dire que c'est aussi difficile de faire les bons choix au bon moment, de trouver les bons mecs, les bonnes associations. Donc je fustige pas ces gens-là, mais à un moment donné, juste un peu de courage, enlevez de la pression, soutenez vos entraîneurs. Les entraîneurs, ils sont là pour avoir des résultats avec l'équipe en place, ils sont pas là pour gérer tout l'extra sportif, et ils se perdent. Tu vois Tourelle, il était d'une fraîcheur incroyable au début, où là, on parlait tactique, mais il est devenu pénible parce qu'il a il parle de trucs dont il ne devrait pas parler. Et en plus, c'est pas lui qui devrait être en première ligne.
Il est où Nasser en fait depuis
Il y a justement une réaction sur le hashtag RMC Live d'Amakage qui nous dit: c'est net cette saison, on n'a pas vu Nasser, ni même les dirigeants du Stade Malherbe de Caen que je connais. Je connais même pas leur tête, et pourtant c'est mon club de cœur, dit-il. Ils se sont beaucoup cachés cette année, les présidents de Ligue 1, nous dit Damaquet. Il va un peu dans le sens de ce que tu dis finalement.
Et un autre exemple qui me vient en tête, qui est l'illustration parfaite de ce que Ludo dit. On avait beaucoup vanté en fait les surperformances de l'OGC Nice sur les quelques dernières saisons, et sur, quand je regarde comment le club est organisé
avec Julien Fournier, bien sûr,
et avec le président River, tout était clair, tout était limpide.
River Plate
il y avait un président qui ne se mêlait, le président qui ne se mêlait pas du tout du sportif. Je pense que River, tu l'as jamais entendu parler de, voilà, il s'est pas mêlé du tout de la cellule sportive, de la cellule de recrutement. T'avais un directeur administratif, Julien Fournier, qui connaissait son travail sur le bout des doigts, une cellule de recrutement ultra performante, et c'est pour ça qu'un petit club comme Nice est arrivé à surperformer.
Non mais juste
c'est ça qui est pas important, c'est un président qui arrête de se mêler du sportif. C'est insupportable.
Prenez vos responsabilités, vous êtes gracieusement payé pour pouvoir faire le taf.
Gracieusement, du coup ça veut dire qu'ils sont pas payés.
Ouais,
c'est...
Bah grassement payé alors si tu veux.
C'est vrai que t'es vachement drôle même quand tu veux pas.
Et les gens de l'Est.
Ah mais non, mais mettez les mains dans le cambouis les gars de temps en temps, ça franchement vous en sortirez grandi, j'en suis sûr.
Mais tu sais, et en plus une dernière chose, oui, parce qu'il a totalement raison, mais là Ludo, mais il y a un truc, c'est que t'as l'impression que les mecs là à la tête des gros clubs notamment, bah cette année ils se sont fait dessus, hein. Mais en fait, Jacques-Henri Hérault, là, il est un peu ressorti du bois là dernièrement, mais au cœur de la crise, j'ai pas non plus senti hyper concerné. Nasser, il est mort, on dirait, il est décédé, il est
mais non, mais tu donnes l'exemple. C'est-à-dire que si tu fustiges des fois, tu vois, que ça soit McCourt, Jacques-Henri Hérault, de temps en temps, ils sont descendus, Olivier Létang, ils sont descendus dans le vestiaire, ils ont tapé du poing sur la table. Ok, mais vous aussi, mouillez le maillot, les mecs. Hein.
Et toi, t'es en train de te faire des potes.
Pourquoi?
Réaction sur le hashtag RMC Live. Le Cobra nous dit: Comment? Je viens de me faire spoiler Game of Thrones en écoutant une émission de radio de foot. Bravo bon. À cette, je vais le dire, même si c'est un gros mot, pardon le CSA. Bravo à cette sous-merde de Ludo Aubragnac. Voilà, bravo Ludo. Alors moi je m'en fous, je regarde avec, pas. Bon, mais visiblement.
T'as déjà regardé un épisode, frère? Non.
Voilà.
Et moi je, et alors, regarde, je me sens mal.
Non, mais en même temps, le mec, l'épisode 5, il est sorti depuis une semaine. Réveille-toi, ça fait.
Mais là, Jérôme, il est comment? Il est en train de me pourrir l'oreille, il faut que tu arrêtes tout de suite.
Ça me fait plaisir de rencontrer un mec qui a jamais regardé ça.
C'est pas trop mon délire.
Non, mais j'ai l'impression que j'étais seul, mais merci Nico.
Non, c'est pas trop mon truc.
Ouais, que... Il y a des bonnes séries, hein, sur Netflix, mais.
Oui, moi je regarde. Mais c'est pas sur Netflix d'ailleurs, ça. Non? Non, c'est pas sur Netflix.
Ah ouais? Bon, je vois, c'est peut-être pour ça que je vois pas.
Ouais, moi aussi.
C'est sur OCS.
Ouais, sur Netflix.
Et tu peux regarder en même temps, voilà. C'est diffusé aux États-Unis, donc ça sera dimanche 3h du matin, il me semble.
Tu regardes
ça en
VO et tout, toi?
Ouais.
Et alors?
Tu te lèves?
Non, je regarde pas. Je regarde le lendemain, après les rediffs.
D'accord.
Aucune série n'égalera jamais The Wire.
Ouais.
C'est vrai.
Cela dit, comme dit Jérôme Thomas, la meilleure série au monde, c'est quoi? Ah, c'est la Ligue 1. C'est pour ça qu'on va en parler dans quelques
instants. Bon, voilà.
Après cet avis sérieux de Ludo Aubragnac, place à quelques valoulettes, petite blagounette de notre Ludo, qui va nous prouver juste après ça.
One Man Show.
Voilà pourquoi il est aussi rigolo. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, Nicolas Villas.
En compagnie de Ludovic Aubragnac et de Jonathan McCarty, vous venez d'écouter il y a quelques secondes l'avis tranché de Ludo Aubragnac qui lançait un appel.
Il a surtout spoilé Game of Thrones.
Et qui a spoilé également Game of Thrones. Tiens, on va accueillir Aurélien avant de passer aux infos du jour, qui est supporter du PSG et qui voulait réagir à ton avis tranché. Toi qui disais, président de Ligue 1, finalement, prenez vos responsabilités. Salut Aurélien. Aurélien?
Allô?
Ouais.
Salut Aurélien.
Ah,
oui, président ou dirigeant, les deux vont de
pair. Oui, bien entendu. Ouais Aurélien, ouais. On t'écoute.
Mais en fait, moi, mon avis, je sais pas s'il est bon ou pas, mais de ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, finalement, les présidents que moi j'ai trouvé qui intervenaient souvent dans leur club, j'ai en mémoire Louis Nicolin ou Jean-Michel Aulas en France, c'est les présidents qui mettent leur argent, en fait. Et j'ai l'impression qu'ils se sentent beaucoup plus légitimes d'intervenir.
Ah, oh, rappelle-toi Pape Diouf.
Jean-Louis Trio.
Ouais.
Qui était bénévole.
Pape Diouf, Vincent Labrune.
C'est sûr. Eh ben, ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que il faut choisir le bon président délégué.
Oui.
Pas Diouf, mais clairement, il était fait pour ça. Mais dans ce cas-là, pourquoi mal choisir? Alors, pourquoi prendre des mecs? On sait que ils ont pas le tempérament, ils ont pas le caractère pour intervenir dans des dossiers chauds. Et dans ce cas-là, finalement, c'est grave de mal choisir parce qu'au final, il y a des conséquences derrière. C'est-à-dire que le groupe peut exploser quand on n'arrive pas à le gérer, quand un mec ne se fait pas respecter. Donc en fait là c'est très très grave quand on n'est pas capable de choisir son président.
Bah, regarde Aurélien, toi tu es supporter du Paris Saint-Germain, veux pas vous donner l'impression de faire une fixette, mais je pense que Nasser a une grande part de responsabilité dans les échecs successifs du PSG en Ligue des Champions.
Et puis souviens-toi de Lizzo, ça avait été grand président, il n'était pas propriétaire du club. Hein.
Aussi ouais.
Et Nasser, il a tout intérêt à faire comme Jean-Michel Aulas, tu vois, à prendre un espèce de virage où lui, il est en train de se mettre dans des instances qui sont européennes, choisit quelqu'un qui va défendre les intérêts du PSG, qui va être va être la figure du Paris Saint-Germain. Quand on
sait pas forcément
cette personne
là
peut intervenir. Antero, il fait son bisbille à côté parce que lui, il est spécialiste d'aller chercher des joueurs.
Pas forcément Ludo, regarde, rappelle-toi, c'est pas forcément le président. Regarde, Leonardo était directeur sportif et il le faisait très bien, même un petit peu trop avec son fameux coup d'épaule.
Il a les deux casquettes.
Et il le faisait très bien.
Il n'est pas à l'aise à aller devant les caméras.
Et du coup, ça manque.
C'est pour ça que mets-toi un peu en retrait, va dans les instances européennes et tout ça, essaye de défendre les intérêts du PSG. Il le fait très bien, ça, Nasser. Il le fait très bien. Par contre, l'épisode où il y a Noël Le Graët qui commence à taper sur le Paris Saint-Germain, ou Neymar, ou l'épisode Neymar avec cette giflette là. Mais c'est pas à Thomas Tuchel d'aller de gérer ça.
C'est pas à lui de gérer ça.
Pour finir là-dessus, Aurélien.
Oui, ben pour finir là-dessus, moi j'avais pensé à une époque, ça faisait rire des gens, mais est-ce que Nicolas Sarkozy n'aurait pas eu
je vais te répondre parce que il s'avère que je peux répondre avec on va dire quelques vraies informations que tout le monde connaît. De toute manière, Nicolas Sarkozy, son rêve, c'est d'être président du Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
Ça c'est une évidence. Il a essayé, il a beaucoup participé au transfert de Neymar, il a fait énormément de lobbying auprès de certaines instances européennes, auprès de certaines instances françaises pour des taxes intracommunautaires. On l'a expliqué des milliers de fois dans l'after au moment du transfert de Neymar. Il pensait être compenser en trouvant une place dans l'organigramme. Il l'a pas eu parce que et ça c'est Ali nous le dit souvent. Ali est proche, enfin connaît la famille au Qatar. Le président du PSG sera un Qatari. Mais est-ce que Nicolas Sarkozy serait le parfait président du Paris Saint-Germain? Il n'y a aucun doute là-dessus.
Merci. Merci beaucoup Aurélien d'avoir
été avec nous. Je ne fais pas
très bien. Non, c'est vrai. C'est pas celui que je maîtrise le mieux.
Ah si, là, si.
En tout cas, Monsieur McCarthy, j'apprécie beaucoup vos analyses.
Est-ce que tu peux dire que tu vas me mettre sur un croc de boucher?
Non, c'est pas ce que je vais dire. Vous en avez marre de cette racaille? On va vous en débarrasser. Merci beaucoup Aurélien de nous avoir
invité au 32-16.
C'était bof, je vous le concède.
Non,
petites infos du jour. Demain 21h, Toulouse-Marseille. Alors sachez que Balotelli est forfait. Problème musculaire pour l'attaquant de l'OM. Alors vous savez quoi, je me suis amusé à compter. Alors Balotelli, il a joué 24 matchs cette saison avec l'OM. Mmh. Il a marqué 8 buts, mmh, une passe décisive. Il est décisif toutes les 186 minutes. Mais surtout, Balotelli, il a joué 24 matchs sur 41 possibles.
Voilà.
C'est surtout ça le truc. Il a absent quasiment un match sur deux.
C'est incroyable. Ah non, mais là, un petit déplacement, un petit peu ennuyeux.
Et alors tu sais que j'ai regardé ça. Au final, on a souvent l'impression qu'il est souvent absent pour les déplacements. En 16 matchs ratés, il y en a 8 à domicile, 8 à l'extérieur.
Non mais la fin de saison, tu le vois, il kiffe sa vie sur Instagram, il profite du soleil, c'est bien.
Rudy Garcia était aujourd'hui en conf de presse. Alors l'OM ne sera pas européen la saison prochaine et l'entraîneur marseillais l'a admis, il vit la pire saison de sa carrière.
Plus que déçu, frustré, on voulait faire autre chose cette saison. Voilà, c'est certainement la plus mauvaise saison de ma carrière. Mais pour l'instant, on parle de Toulouse et de ce match-là et d'être à la hauteur effectivement du maillot qu'on porte. On aura le temps la semaine prochaine et après le dernier match, effectivement, de revenir sur tout ce qui s'est passé cette saison. Il faut que je montre l'exemple en termes de motivation pour ce match de Toulouse et pour celui de Montpellier, évidemment. Comme c'est dans ma manière de faire et dans mes gènes, ça me pose pas vraiment de problème.
Il est nickel là. On l'a assez taillé pour dire là ce qu'il dit, c'est nickel. Mais ce qu'on sent clairement, c'est que c'est la fin de l'histoire. Tant mieux pour l'Olympique de Marseille. Tant mieux pour lui, parce que j'ai l'impression qu'il est assez éreinté de cette saison qu'il a vécue. Mais voilà, faut vraiment vite que ça se termine maintenant.
Qui sont également, alors Kevin Strootman était lui aussi en conférence de presse. Alors il a un petit peu envoyé d'ailleurs Kevin Strootman. Il l'avait déjà fait en zone mixte il y a une semaine. Le Néerlandais qui a confié que l'ambiance n'était pas bonne dans le vestiaire, notamment à cause des résultats.
Et de son salaire aussi, il a dit.
C'est pas bon à ce moment, dans le vestiaire, sur le terrain, dans le club. Pour nous, c'est la même chose comme pour les supporters. Une saison très difficile, une saison pas bonne. Et maintenant, il reste deux matchs qu'on doit gagner. Et on doit faire tout pour gagner ces deux matchs.
Il sait que son salaire pose problème dans le vestiaire. Il reconnaît que, tu vois, c'est quand même.
D'ailleurs, il laisse un petit point, il dit voilà, moi je me sens bien à Marseille, mais je sais pas ce qui se passera pour la saison prochaine.
Il faut qu'il parte avec Rudy Garcia. Rudy Garcia était content de le faire venir, qu'il l'amène dans ses petites valises.
Il est cramé. Moi, je sens une vraie volonté de faire mieux.
Alors, mais il est physiquement cramé, il peut pas lui.
Écoute, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute.
Flo Germain,
ce qu'il a dit à il a fait son autocritique, il dit qu'il peut mieux faire.
Flo Germain hier expliquait dans l'after que le mec, il a besoin de 45 minutes avant de pouvoir se mouvoir normalement. 45 minutes d'échauffement, ça a été un super joueur, il y a pas de problème, mais là il a eu trop de blessures, c'est compliqué maintenant. Ça va être très compliqué.
Tout à l'heure, on parlait de Silvinho, donc
qui quitte la Confédération
brésilienne de football. Il était donc le sélectionneur des Olympiques, des moins de 23 ans. Il va rejoindre très probablement Juninho à l'Olympique Lyonnais. Alors, Tite qui aujourd'hui a donné la liste pour la Copa América, qui sera du 14 juin au 7 juillet au Brésil. Il y a 4 joueurs du PSG dans cette liste. Il y a Dani Alves, qui est assez surprenant finalement. Ça faisait un an qu'il n'était pas appelé en équipe du Brésil. Marquinhos, Thiago Silva et Neymar. Alors, il y a certains absents. Il n'y a pas Danilo, par exemple, le latéral droit de Manchester City. Il n'y a pas Lucas non plus, qui a pas été appelé. Fabinho, Douglas Costa.
Diego Costa.
Aussi, ouais, c'est vrai.
Parce que je trouve ça quand même, même si...
Diego Costa, il est espagnol.
Ah oui, non. Douglas Costa. Le mec de la Juve, là.
Oui, c'est ça.
C'est ça, il y est pas. ça fait quand même des bons noms mis sur le carreau, hein.
Ouais.
Et tu regardes la sélection, elle a de la gueule, hein.
Alors, les journalistes brésiliens qui ont été très insistants auprès de Tchit également pendant la conf de presse, qui lui ont demandé, alors, son avis sur les gestes de Neymar en finale de Coupe de France, qui lui ont demandé s'il allait porter le brassard de capitaine pendant la Copa América. Alors, il a botté en touche, hein, Tchit, il a dit, Neymar a fauté, a-t-il dit justement par rapport à ce geste en finale de Coupe de France. Mais avant de dire quoi que ce soit, je vais en parler avec lui, pas au téléphone, mais personnellement. Voilà ce qu'il a déclaré concernant d'ailleurs ce geste et l'histoire du capitaine. Voilà, ils vont régler ça entre les mecs. Cavani de nouveau papa. Alors, il a publié une vidéo. Troisième enfant pour Cavani. Sa petite India est née aujourd'hui. Donc voilà, plein de bonheur à toi, mon garçon. Voilà. Non, mais c'est mignon.
Non, mais c'est bien. Il a refait sa vie à Paris. Ça... On sait qu'il était malheureux parce que c'était dur pour lui d'avoir ses enfants sur un autre continent. C'est bien.
C'est très, très intime finalement comme moment. Mais franchement, tu vois la vidéo, t'as envie de chialer, quoi.
Ouais, j'ai vu.
Voilà, c'est mignon. Ben Arfa qui est pas dans le groupe du Stade Rennais pour le match face à Strasbourg.
Sans blague.
Fait ses cunus au lit et privé de dessert.
Autre info également, sachez ça, ça va faire plaisir à Jonathan. Mitchell, ancien entraîneur de l'OM, s'est engagé avec les Pumas au Mexique.
Ouais.
Voilà. Il est à Malaga ces derniers temps.
Les pauvres Mexicains, qu'est-ce qu'ils ont demandé aux pauvres Mexicains?
En Espagne,
c'est un flop total à Malaga aussi. Hein.
Ouais. Simeone commente le départ de Griezmann. Il a déclaré « Je n'ai que des mots de remerciement envers Griezmann. Je l'aime en tant que personne. Au cours de ma vie, j'ai appris à ne pas juger les décisions des autres. Nous allons trouver ce remplaçant. » Et alors là, petite annonce. « Je cherche un attaquant qui joue bien dans le dernier tiers du terrain, qui marque 20 buts et ne coûte pas cher. » Voilà. Bon courage, mon pote. Alors, où va aller Grisou maintenant? C'est la question. Alors, c'est vrai que tout le monde se dit il va aller au Barça.
Bien sûr.
Au Paris Saint-Germain, peut-être. Réponse de Thomas Tuchel à la rumeur. C'était cet après-midi en conférence de presse. Et là, Tuchel?
En ce moment, c'est pas réaliste. Et on cherche des joueurs et on cherche des joueurs avec certains profils. Et c'est toi être réaliste pour faire ça. Et on doit créer une équipe. Et on a des profils qu'on a besoin. Et ce sont encore des joueurs défensifs. Et voilà, on doit commencer avec ça.
Voilà, la priorité sont les joueurs défensifs.
Plein de bon sens. Voilà. Certes, Griezmann, c'est attrayant et ça paraîtrait, mais il y a d'autres priorités, d'autres chantiers prioritaires du côté du Paris Saint-Germain, notamment au milieu de terrain, et je crois qu'il en a pleinement conscience.
Bien sûr, il va aller à Barcelone et puis ce manière-là, quoi, c'est réglé.
Benjamin Nivet va arrêter sa carrière à la fin de la saison à 42 ans. Autre joueur également, plus de 500 matchs en pro, qui va arrêter sa carrière du côté de la JOCR, c'est Julien Ferré.
Quel beau
joueur
aussi.
Également. Et à la JOCR, nouvel entraîneur va arriver.
Oh là là.
Jean-Marc Furlan a déclaré ce soir, oui, je serai à OCR, c'est officiel.
Je suis déçu. Vous voulez le voir en Ligue 1? Idéalement l'Olympique de Marseille. Ouais. Je suis un peu déçu parce que j'aimerais. En fait, c'est très bien. Je sais qu'il va faire des belles choses à Auxerre, mais j'aurais vraiment aimé qu'il ait un club au moins correct de Ligue 1 pour au moins voir ça une fois. Après, voilà quoi.
Tiens, et dernière petite info également. Sachez qu'Iker Casillas dément l'arrêt de sa carrière. Il a tweeté aujourd'hui. Alors vous savez qu'il a été victime d'un infarctus lors d'un entraînement le 1er mai dernier. Un jour, je prendrai ma retraite, a-t-il tweeté. Laissez-moi annoncer cette information quand le moment sera venu.
C'est normal.
Pour le moment, tranquille. Hier, j'ai eu une consultation avec le docteur Philippe Macedo, tout va très bien. Ça, oui, c'est une grosse info que je voulais partager avec tout le monde.
C'est normal qu'il ait envie de garder la main sur l'annonce de sa fin de carrière. Je pense que Ludo, il est mieux placé pour nous pour en parler. Mais.
Et avant de se quitter, petit détour par Rome avec Eric Salio, quart de finale du Masters 1000 de Rome entre Djokovic et Del Potro. Eric.
Oui, pardon. Non, on était en train de papoter avec quelqu'un de l'ATP.
C'est ça.
Et c'est très accroché puisque Novak Djokovic a perdu le premier set face à Juan Martín Del Potro. Le Serbe s'est procuré une balle pour revenir à un set partout. Il ne l'est pas concrétisé. Il s'est fait breaker derrière et donc on se retrouve, au coude à coude puisque Novak Djokovic mène 6 jeux à 5, mais c'est Del Potro qui va servir. Et c'est loin d'être fini cette affaire.
Hein. Eh ben bonne nuit à toi alors Eric, parce que là on y va.
Oui, parce que là on l'aura pas, hein, le score. Hein.
Bah là, nous on remballe. Hein. Écoute,
tu tweets,
on compte sur toi sur le hashtag RMC Live. Hein.
Bien sûr.
Bon, merci Eric, bonne nuit à toi.
Salut Eric,
ciao
Eric. Merci beaucoup Ludo.
Merci à vous.
Merci beaucoup Jonathan.
Merci Nico, merci Ludo.
Merci à Jérôme, merci à Alban, merci Adrien également qui était au standard. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et puis nous, on se retrouve demain, bien entendu, avant dernière journée de Ligue 1. Demain, qui vous attend sur RMC.
À demain.
Ouais, à demain. Bisous. Bonne nuit.
RMC. L'After Foot.